7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et c'est l'heure de retrouver Virginie Fulpin pour le journal.
Frappée par Daesh, la Russie accuse l'Ukraine. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat meurtrier de vendredi soir plusieurs fois, mais Vladimir Poutine fait la sourde oreille. Emmanuel Macron arrive en Guyane ce matin. La dernière fois que le président s'y est rendu, il avait précisé qu'il n'était pas le Père Noël. Gabriel Attal sera-t-il le Père Noël des agriculteurs? En tout cas, le Premier ministre les reçoit une nouvelle fois ce soir.
Après le journal, l'éditorial de Guillaume Tabar sur le possible duel Dati Hidalgo, prochaine municipale à Paris. Et juste après, retour sur l'attentat de Moscou et ses conséquences avec le spécialiste du terrorisme et directeur adjoint de l'Institut français des relations internationales, Marc Ecker. Avant de parler de l'attentat en Russie, de vastes opérations anti-drogue ce matin en France.
Oui, des opérations anti-drogue actuellement en cours dans plusieurs villes françaises, l'une d'elles dans la métropole lilloise. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui l'annonce. Des opérations qui font partie de PlaceNet XXL, lancées la semaine dernière à Marseille.
La Russie, donc, accuse l'Ukraine d'être derrière l'attentat meurtrier de vendredi à Moscou.
La journée de deuil, le bilan qui s'alourdit à 137 morts, le traumatisme de la population russe après l'attaque de vendredi soir et les multiples revendications de Daesh n'y font rien. Le pouvoir russe n'évoque pas l'État islamique. Vladimir Poutine préfère incriminer l'Ukraine, Marc Tédé.
C'est en Ukraine que les quatre membres du commando terroriste s'apprêtaient à trouver refuge lorsqu'ils ont été interpellés selon le FSB, les services de sécurité russes. Certains auraient été recrutés via l'ambassade ukrainienne au Tadjikistan, affirment cette fois les médias officiels. Cette incrimination de l'Ukraine répond à un intérêt stratégique, analyse le géopolitologue et spécialiste de la Russie, Jean-Sylvestre Montgrenier.
Sur le théâtre ukrainien, il faudrait le déploiement de plus d'hommes en incriminant le pouvoir ukrainien, en expliquant que c'est lui qui est derrière cet attentat. Ça peut servir de prétexte pour passer à une nouvelle étape dans la mobilisation.
Des accusations qui permettent aussi de durcir davantage l'appareil répressif en Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine, précise Jean de Glignasti, chercheur associé à l'IRIS et ancien ambassadeur de France à Moscou.
Il y a un projet de loi sur la peine de mort, il y a des mesures qui sont prises contre ceux qui sont partis, là ça a déjà été pris. Diverses mesures sont envisagées pour tenir les voix qui s'expriment contre la guerre.
Un schéma désormais bien connu, observé après chaque attentat en Russie depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine.
Les quatre suspects de l'attaque ont été placés en détention provisoire. Les recherches se poursuivent au Crocus City Hall pour tenter de trouver des survivants. En France, la revendication de l'attentat par Daesh est prise très au sérieux. Le gouvernement a relevé au maximum l'alerte attentat. Une réunion a lieu ce matin avec tous les services concernés. Claude Moniquet, ancien agent de la DGSE, spécialiste du terrorisme, nous dit que puisque le groupe État islamique a pu attaquer en Europe, il peut prendre la France pour cible.
C'est la première fois depuis 2017 qu'ils arrivent à commettre un attentat massif avec une létalité énorme, hors d'un territoire de djihad. Ça veut dire d'une part qu'ils ont une capacité à projeter des gens en Russie en tout cas, et ça veut dire que cela va être exploité pour l'incitation à commettre des attentats ailleurs dans le monde. Et dans ce cadre, évidemment, la France est une des cibles privilégiées de l'État islamique, on le sait depuis longtemps. Et puis surtout, bien entendu, cet été, les Jeux Olympiques. Toutes les caméras du monde seront là. Si un groupe terroriste veut marquer des points, c'est évidemment à ce moment-là qu'il doit frapper. Et là, effectivement, la menace est maximale.
Des propos recueillis par Nina Droff. Le Sénégal vers un changement politique. Plusieurs candidats ont déjà félicité Bassirou Diomaye Faye. Le candidat de l'opposition est donné largement en tête du premier tour.
Emmanuel Macron est attendu en Guyane ce matin.
Il doit arriver vers 10h. Un déplacement aux multiples enjeux. L'espace avec le centre spatial de Kourou, mais aussi la sécurité avec le fléau de l'orpaillage illégal, cette ruée vers l'or qui dévaste le territoire. Les habitants et les élus guyanais attendent surtout d'Emmanuel Macron des annonces sur les enjeux sociaux et économiques, Lauriane Toulmont.
Je ne suis pas le Père Noël. La petite phrase d'Emmanuel Macron lors de son unique voyage en Guyane en 2017 a marqué les esprits. Cette fois-ci, le président de la République ne vient pas les mains vides avec des annonces attendues pour les pêcheurs qui font face à la pêche illégale des bateaux venus du Suriname et du Brésil voisin. Un pillage des ressources encore plus grave que leur pillage illégal, commente l'entourage d'un maire guyanais. Le chef de l'État prévoit aussi de relancer la production agricole alors que 96% du poulet consommé en Guyane est importé. rappelle un conseiller lyséen. Mais pour cela, encore faut-il avoir des terres. En Guyane, l'État est propriétaire de 90% du foncier. Des parcelles sont donc en train d'être cédées avec interdiction de toucher à la forêt amazonienne. L'Élysée promet de préserver la biodiversité alors que sur place, la sécheresse inquiète. À l'ouest du territoire, le principal fleuve est à sec, coupant du monde. Les habitants, ils réclament la construction d'une route pour enfin être désenclavés.
Tiens, encore une semaine décisive pour les syndicats agricoles. Les jeunes agriculteurs et la FNSEA reçus par Gabriel Attal ce soir et demain l'ouverture du congrès de la FNSEA à Dunkerque. Luc Smessard est vice-président du syndicat, il explique ce qu'il attend de Gabriel Attal.
Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire durer le mouvement. Nous, ce qu'on veut, c'est que le Premier ministre puisse aller un peu plus dans le détail. Comment on applique les engagements sur l'élevage dès les revenus qu'on va déclarer là dans un mois au niveau fiscalité? Comment on avance sur la gestion de l'eau? Il a jamais autant plu depuis des mois et on ne stocke toujours pas un mètre cube d'eau supplémentaire. Et c'est tous des éléments importants et il est indispensable que dans nos fermes, on retrouve ce bon sens et cette confiance de l'administration et du politique qui doit accompagner les agriculteurs plutôt que de les sanctionner et contrôler.
Luc Smessard avec Julie Drouin. 2 ans après le scandale des EHPAD, l'urgence est plus que jamais là. Le gouvernement lance aujourd'hui sa stratégie de lutte contre les maltraitances des personnes vulnérables, dont les personnes âgées. La promesse, c'est un circuit d'alerte beaucoup plus efficace. Des numéros d'urgence ont déjà été mis en place, mais il faut passer un palier, Rémi Pfister.
Dans la foulée du scandale Orpea, le 3977, le numéro national des signalements de maltraitance, a connu un bond de 30% de son activité. 10 000 dossiers ont été transmis au pouvoir public l'an dernier. Seulement une partie émergée de l'iceberg, estime Vincent Lescornet, directeur général de la Fédération 3977.
Ne sont portés à connaissance que 5% des situations de maltraitance. Parce que la maltraitance, elle n'est pas seulement en institution, elle est aussi au domicile. La personne qui aura peut-être empêché de sortir de chez elle, le droit d'écrire, le droit de téléphoner. Le plus souvent, c'est le voisin qui va appeler. On peut avoir tous les dispositifs. L'humain doit primer.
Toute la difficulté, explique Sabrina Deliri, fondatrice du Cercle des proches aidants en EHPAD, c'est de caractériser la maltraitance, car bien souvent, elle prend une forme insidieuse.
C'est une personne âgée qu'on ne va pas pouvoir doucher, laver autant de fois qu'elle le souhaite, par manque de temps, par manque de moyens. C'est une bouteille d'eau qu'on va poser sur la table du résident dont on ne va pas ouvrir le bouchon. Et après, la violence, les actes déplacés. Malheureusement, ces familles, elles ont peur parce que vous avez des directions qui vous menacent de virer votre parent si elles l'ouvrent trop.
Autre forme de maltraitance, l'isolement des résidents mis en lumière par la crise Covid. Le gouvernement va désormais sacraliser le droit de visite, car un directeur d'EHPAD peut encore seul décider de confiner son établissement en cas d'épidémie de grippe, par exemple.
Et puis je vous rappelle ce qu'on disait en début de journal. En ce moment, de vastes opérations antidrogues ont lieu dans plusieurs villes de France, dont la métropole lilloise. C'est le ministère de l'Intérieur qui l'annonce.
Merci Virginie, je vous dis à demain pour d'autres informations. À suivre l'éditorial de Guillaume Tabar avec Le Figaro. Le duel Dati-Hidalgo inspire déjà un sondage.